Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM. Nous sommes en direct du château de Gaillon et nous recevons Léa Romanios, qui est guide conférencière du château. Donc bonjour Léa.
Bonjour.
Tout d'abord, merci de nous accueillir dans ce magnifique lieu historique qui surplombe véritablement la ville de Gaillon. Avant de parler des différents événements que vous proposez, pouvez-vous commencer par présenter ce château qui a plus de 1000 ans?
Alors, pour faire très succinctement, parce que Milan c'est très long, on part donc d'un château médiéval, comme la plupart des lieux, qui stratégiquement en fait était positionné entre le royaume de France et le duché de Normandie, qui malheureusement est détruit pendant la guerre de Cent Ans. Je dis malheureusement pour les propriétaires qui venaient de l'acheter, qui étaient les archevêques de Rouen. Ces archevêques vont s'installer sur les lieux et en fait vont faire vraiment du château une renommée internationale, puisque là moi je parle d'international dans le sens où ça s'exporte même jusqu'en Italie. On va avoir ce qu'on considère en fait aujourd'hui en France comme le premier château de style Renaissance, de la Renaissance française. Et les archevêques vont être là pendant 4 siècles jusqu'à la Révolution française qui, pas de chance, va faire beaucoup de mal au château puisqu'on va se retrouver avec une carrière à ciel ouvert. Cette carrière va imposer en fait une nouvelle ère au château puisqu'on va avoir Napoléon Bonaparte qui va arriver ici au 19e siècle, au début du 19e, puisqu'on va obtenir une des 9 maisons centrales de détention en France qui a été créée à l'époque. Pendant un siècle, on va donc abriter non plus des archevêques mais pour le coup des prisonniers. Hommes, femmes et enfants, en
oui,
général.
Parce qu'il y a eu aussi les réfugiés espagnols,
oui.
Puisque vous avez commémoré il n'y a pas longtemps.
Oui, donc ça vient un petit peu plus tard, mais effectivement, la configuration des lieux due à l'époque carcérale fait qu'on a pu les recevoir. À la suite, justement, de cette époque carcérale, on devient une caserne militaire, caserne qui, pendant plusieurs années, est désaffectée, où on n'a pas de militaire, qui permet justement aux réfugiés espagnols de pouvoir être abrités dans le château pendant plusieurs mois. Et puis, donc à l'issue de cette histoire militaire, on devient une propriété privée qui, malheureusement, avec beaucoup de volonté, n'est pas maintenue comme on le voudrait. C'est quand même beaucoup d'efforts d'entretenir un château comme celui-ci. Donc en 1975, l'État récupère le château pour en faire un futur joyau de l'architecture et surtout du tourisme qu'on est en train de valoriser justement à partir de depuis quelques années déjà, mais surtout à partir de cette année avec des restaurations.
Donc oui, en fait, ce château, il a plusieurs vies. Et
tout
donc, quelles personnes ont vécu dans ce château partir de la Renaissance et même après?
Si je vous disais les grands noms en règle générale, nous chez les archevêques de Rouen, ça va être notamment Georges d'Amboise qui est clairement l'instigateur du château au XVIe siècle, enfin qui en fait de ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez après d'autres archevêques assez importants, hein, François de Harlay notamment, Jacques-Nicolas Colbert qui à leur façon ont laissé aussi leurs traces dans le château, mais on était sur une propriété qui se transmettait d'archevêque en archevêque, donc clairement, ils ont tous eu un rôle. Après, ce seraient les prisonniers hein, qui,
oui,
malgré eux,
les habitants,
ont eu un rôle. Oui, ont habité le château. On a eu ensuite les militaires qui ont eu aussi leur rôle dans l'histoire, puis les propriétaires privés. Alors aujourd'hui, même si on est une propriété de l'État, disons que les propriétaires seraient plutôt la faune. Pour être honnête, on a énormément d'animaux dans ce château, donc ça c'est une composante qu'on apprécie au quotidien. On a aujourd'hui des habitants qui vont être des chauves-souris ou des chouettes par exemple, donc on se lasse pas honnêtement, qui sait, demain ce sera peut-être de nouveaux habitants, mais voilà.
Cet édifice est aussi entouré d'un très beau jardin, comment le décririez-vous pour nos auditeurs qui ne le voient pas?
Alors ici on a la particularité d'avoir plusieurs types de jardins, on va avoir un premier qui était vraiment celui qui accompagnait au XVIe siècle le château, ce qu'on appelait le jardin de plaisance. Alors ce jardin il a toujours les mêmes dimensions aujourd'hui, c'est devenu un jardin un petit peu plus on va dire banal entre guillemets dans le sens où il n'y a plus les aménagements d'époque, mais il a toujours la particularité d'avoir une vue imprenable sur la vallée de la Seine et surtout sur les anciens potagers du château qui sont donc le deuxième jardin qu'on a. Et on est très fiers depuis quelques mois de dire qu'on est les nouveaux propriétaires de ces jardins-là puisque malheureusement pendant le temps ils avaient été un peu disséminés. Donc là on est sur une très belle offrande, si je peux dire ça comme ça, un très beau cadeau puisque c'est la ville de Gaillon et la ville du Val d'Azé qui sont les communes voisines du château qui ont fait en fait un leg à l'agglomération qui aujourd'hui gère le château. Et puis vous avez un tout petit espace qui est l'ancien parc des archevêques. Alors quand je dis tout petit espace, je suis très ironique puisqu'auparavant on était quand même sur plusieurs centaines d'hectares. Aujourd'hui, on a pu également avoir l'opportunité de récupérer une parcelle de forêt. Et il y a un dernier espace qui, c'est vrai qu'aujourd'hui, n'est pas forcément mis en valeur, mais qui est l'orangerie. Donc, c'est le lieu aujourd'hui, c'est les coulisses, le lieu des restaurations. Et donc, c'est vraiment ces 4 espaces-là qui composent tout ce qui va être végétal autour du château.
Et vous avez lancé une grande phase de travaux et de restauration dans ce château et aussi dans les jardins. Comment ça se passe? Parce que ça doit être gigantesque comme, comme chantier, quoi. Vous réalisez ces travaux en plusieurs étapes?
Oui, tout à fait. Donc là, on parle de phases, en fait, dans les restaurations. On estime à l'heure actuelle, vu la taille du château, et ça, c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas compte, le château ne maintient pas à l'entrée, ce qu'on appelle le pavillon d'entrée. Vous avez tout un tas de bâtiments et d'annexes. Aujourd'hui, on considère que c'est à peu près 10 ans de travaux, aménagement des jardins compris. Et on a déjà commencé, puisque là, les visiteurs ne l'entendent pas forcément, mais quand on vient au château, on entend le cliquetis en fait, des personnes qui montent les échafaudages, puisque ça y est, c'est parti. C'est... Là, on part sur, au moins pour les bâtiments qui composent la cour du château, au moins 2 ans de restauration, plus les autres aménagements par la suite. Donc, comptez à peu près 10 ans. Mais bien entendu, on reçoit le public pendant ces restaurations, on commente ces restaurations, on les montre hein, aussi.
Enfin, ça fait partie de la vie du
voilà,
château.
Voilà, c'est
en fait,
ça. Ouais. C'est un vrai parti pris qui a été de ne pas fermer le château pendant les restaurations pour pouvoir intégrer en fait les gens à tout ce qui se passe ici, coulisses compris.
Parce que vous faites aussi la rénovation du bâtiment des cuisines, de la grande maison, et puis il y a aussi une deuxième étape avec le conservatoire, et vous créez un auditorium, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tout à fait. Donc là, le parti pris qui a été fait, notamment par rapport au fait que l'agglomération Senneur, sur laquelle le château est basé, gère depuis 3 ans maintenant le château, c'est que y a aussi la gestion du conservatoire de musique, qui est littéralement le voisin du château. Donc si, pour faire vivre le château, on doit les intégrer au château, je le dis comme ça, c'est clairement pas une contrainte, et on se dévoue, on va tous faire de la musique ensemble, profiter. Enfin, le but, c'est vraiment d'en faire un lieu culturel, mais avec un grand C. Et ça passe par le patrimoine, ça passe par la musique et tout ce qui se passera ici.
Et ces travaux, ils doivent avoir un coût. Comment est financé ce projet?
Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on est une propriété de l'État qui est classée donc monument historique. Donc ça a un vrai impact en fait sur tout ce qui va être restauration. Ensuite, je vous le disais juste avant, on est géré par l'agglomération Senneur qui injecte énormément d'argent. La région et le département ont également donné pour ça. Et puis après, donc c'est un travail de longue haleine qui se fait notamment avec du mécénat. Donc ça va venir d'entreprises, de très grandes entreprises, puisqu'on a la chance d'avoir un bassin ici qui est assez dense, donc des entreprises qui sont basées sur le territoire. Et puis il va y avoir des gens comme vous et moi qui vont donner pour faire, alors parfois c'est des restaurations plus minimes, mais qui vont participer aux restaurations du château. Donc c'est assez intéressant de pouvoir dire aujourd'hui que le château est une propriété de l'État, donc appartient entre guillemets à tout le monde, mais grâce à ces mécénats, ces dons, c'est encore plus le cas.
Puisque nous-mêmes, on peut faire un don.
Tout à fait. Voilà. Donc là, nous, on passe par la Fondation du patrimoine pour pouvoir faire des dons. Lorsque vous vous rendez au château physiquement ou même tout simplement sur le site internet, vous avez un lien qui vous permet de donner de faire un don. Alors, il n'y a pas de petit don, hein, honnêtement, même si c'est 2 euros. On vous remercie vraiment pour la participation. Et puis, vous aurez un peu l'impression d'être propriétaire du château à votre échelle.
Et la rénovation du lieu fait partie d'un projet plus global qui s'appelle Gaillon Renaissance, que vous mettez en place plus globalement sur le domaine. Pouvez-vous nous parler de ce projet?
Alors, Gaillon Renaissance, je vais vous en parler avec mes mots, parce que c'est vrai que ce n'est pas un projet que je gère au quotidien. Mais dans l'idée, c'est de replacer déjà Gaillon au niveau de son territoire, hein, de se rendre compte que c'était un château, certes, qui était aux archevêques, mais qui aussi appartient à un territoire. Donc, nous, de repositionner les différentes personnes qui vivent autour de château, du château pardon, par rapport à ce projet-là, mais aussi de l'inscrire par rapport à un territoire un peu plus global. On a l'opportunité, nous, aujourd'hui, d'être placés entre le bassin parisien et la côte, ce qui fait que forcément, on attire beaucoup de public de pouvoir justement profiter de ce filon, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, pour faire connaître le château, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, on est sur un diamant qui est un petit peu brut, qui n'est pas encore taillé, et petit à petit, on aimerait bien justement pouvoir amplifier ça. Et on a la particularité, vu qu'on en parlait notamment sur les jardins, d'avoir un espace qui, ici, est extrêmement vert. Et ça fait partie d'une des volontés, une des actions qui est mise en avant par l'agglomération Senneur notamment, c'est le fait qu'on a une biodiversité, une nature qui est incroyable, et ça on peut le mettre aussi en avant avec le château. Donc là il se positionne vraiment sur tous les plans, et puis si ça peut permettre de faire vivre le château, profitons-en.
Et est-ce que vous êtes donné des échéances au niveau de la restauration et des travaux, parce que ça doit être un plan...
Oui.
Gigantesque, quoi.
Alors c'est comme à la maison, hein. Sachez que dans des travaux patrimoniaux, on prend du retard aussi. Mais oui, non, nous on estime que ce sera là pour en tout cas la globalité des monuments et l'aménagement des jardins, 10 ans de travaux. Alors après le végétal, c'est possible que ça prenne un peu plus de temps, mais on essaie de s'y tenir et pour l'instant on n'est pas trop mal en termes de clous, l'avenir le dira.
Et même avec les travaux en cours, vous arrivez à proposer une belle programmation, comme vous le disiez, c'est tout comme... tout cohabite ensemble. Et tout au long de la saison, vous mettez en place dans le château des visites guidées thématiques, des événements, des défilés, des expositions. Et à partir de demain, jusqu'au 2 juin, vous commencez les rendez-vous au jardin. Donc comment ça va se passer? Il y aura différentes activités sur ces journées?
Oui, c'est ça, tout à fait. Donc là, l'avantage justement d'avoir les restaurations, c'est qu'on est obligé de s'expatrier un petit peu. Alors, on va pas très loin, on va dans les jardins. Mais rendez-vous au jardin était parfait pour pouvoir illustrer ça. Et donc là, on part sur 3 jours d'animation où, comme le nom l'indique, ça va se passer vraiment au cœur des jardins, où on va avoir un petit peu de tout. On va avoir des visites guidées, on va avoir une petite randonnée de 2h30 quand même qui va être proposée.
Disons ça va se faire dans les jardins ?
Alors, ça va se faire dans les jardins, ça va se faire aussi dans le parc. Le but, c'est de faire visiter au public tous les espaces naturels du château, enfin du moins dans la mesure de ce qu'on peut montrer aujourd'hui. Donc là, forcément, ça prend un peu plus de temps. Et puis, on va être épaulé aussi avec plusieurs autres activités. Donc, on va avoir, par exemple, une association qui s'appelle ADN, qui est basée à Marteau, sur l'agglomération, qui va pouvoir venir avec des naturalistes confirmés ou en apprentissage pour certains, pour nous donner un coup de main et voir un petit peu ce qui se passe dans les jardins. Parce que, très clairement, on a une grande biodiversité, que ce soit en faune ou en flore, donc on va l'explorer. Et puis, surtout, on va avoir cette année l'opportunité d'être accompagnée par du théâtre. Alors je dis cette année, honnêtement c'était déjà le cas l'année dernière puisque nous c'est la 2e édition qu'on fait, et on a cette année l'AIDAS qui est l'Académie Internationale des Arts du Spectacle de Versailles qui vient nous proposer deux scénettes. Alors ce n'est d'une heure et demie quand même, mais 1h45 même, pardon, qui vont être en fait le mariage de Figaro. Et on a l'occasion aussi samedi de recevoir les Tréteaux de la Pleine Lune qui va nous faire un petit remake, on va dire, des classiques de William Shakespeare. C'est les histoires de l'oncle Will, Macbeth pour le coup, et Roméo et Juliette.
Et ça va se passer où, dans le château, à l'extérieur?
Alors idéalement, normalement, ça se passe dans les jardins. Je dis normalement puisque cette année, et ça fait partie des petites adaptations, c'est que le beau temps n'est pas forcément au rendez-vous. Donc il est possible que, si malheureusement le temps ne nous le permette pas, on s'installe au niveau de la charpente du château, du pavillon d'entrée. Donc il y a un espace qui est quand même assez particulier. On a 17 mètres de hauteur, un espace assez sympathique. Donc on va probablement se replier là en cas de pluie.
Voilà. Et pouvez-vous nous en dire plus sur la thématique des rendez-vous au jardin, qui est 5 sens au jardin?
Oui, c'est ça. Donc là, cette année, c'est les 5 sens, et très clairement, on ne pouvait pas mieux trouver pour le jardin. Et honnêtement, nous, ça s'adapte parfaitement, puisque quand on est sensible à un espace comme celui-ci, tout ce qui va être végétal, les 5 sens sont obligatoirement utilisés. Donc là, nous, on va mettre l'accent là-dessus. Alors peut-être que la dégustation sera un petit peu plus tardive, puisqu'on propose un pot à l'issue des scènes de théâtre. Mais pour le reste, l'observation va être de mise. L'écoute aussi, on a la chance d'avoir, que ce soit les cliquetis des travaux ou les oiseaux aux alentours qui nous permettent d'avoir quelque chose à écouter. Et puis, c'est vraiment jouer la carte de redécouvrir un lieu, pas forcément avec la façon dont on le fait habituellement. Donc si ça peut se faire exclusivement par l'ouïe ou par le goût ou par la vue, voilà. Le but, c'est trouver quelque chose d'un peu sensoriel, de différent. Et ça s'est adapté parfaitement pour nous cette année.
Et vous faites aussi des visites guidées pendant ces rendez-vous au jardin?
Oui, tout à fait. Donc là, on a bouleversé un petit peu, entre guillemets, le programme de visites guidées. Donc on garde à peu près les mêmes horaires, puisqu'il faut savoir qu'au château, on fait pratiquement tous les jours, hormis le lundi, 3 visites guidées pour le public, qui ne sont pas sur réservation. Les gens viennent comme ils le souhaitent, en fonction de leurs envies. Et donc cette année, la thématique va être exclusivement autour de l'histoire des jardins, pour le coup. Donc on se cantonnera exclusivement au jardin haut et au jardin bas, donc le jardin de plaisance et le jardin potager. Et on passera un petit peu, potentiellement, si le temps nous le permet, au niveau de l'orangerie. Et à côté, on a ce qu'on appelle la balade randonnée, qui là va nous permettre d'aller dans des espaces un petit peu plus lointains. Donc comptez 2h30 si vous voulez nous rejoindre sur cette balade-là, et elle partira à partir de 15h au niveau de l'entrée du château.
Et la balade sera aussi guidée ?
La balade sera aussi guidée, et ce sera avec moi pour le coup.
Et comment ça se passe ? Faut-il s'inscrire aux activités ? Est-ce qu'il y a un prix d'entrée ?
Alors, l'avantage des rendez-vous jardin, c'est que ça s'inscrit en fait dans des grands rendez-vous nationaux. C'est que là,
oui, parce que c'est plusieurs, c'est à plusieurs endroits.
C'est ça, exactement. Donc c'est pas exclusivement au château, et c'est pas comme certains dispositifs, comme par exemple Pierres en Lumière, où ça va être exclusivement sur la Normandie. Là, on est sur un dispositif national. Donc on reçoit sur ce week-end-là, gratuitement, en fait, le public, que ce soit sur les prestations qui vont se passer au jardin ou au niveau du château. Et ça va être un vrai atout, parce que à côté de ce qui se passe au jardin aujourd'hui en ce moment. Et ce, depuis 2 semaines, on a une exposition dans le château, donc ça permettra aux gens de pouvoir venir redécouvrir. Donc là, actuellement, c'est l'adage qui est installé. Il vous propose des très belles œuvres d'aquarelle, quelques photographies. Ça vaut le détour. Donc tout ça sera en gratuité, sans réservation, exclusivement potentiellement pour les scènes de théâtre, puisque malheureusement le temps ne nous permet pas d'accueillir trop de monde à l'intérieur. Donc là, oui, par contre, je vous conseille d'appeler le château, mais sinon tout en gratuité et on est les bras ouverts, on vous accepte, venez comme vous avez envie.
Parce que de l'exposition, parce qu'en fait on est pour les auditeurs qui nous écoutent, on est en plein dedans dans l'exposition. On est en direct dans l'exposition, elle est très belle avec de très belles aquarelles. Ouais. Et c'est quoi la thématique de cette exposition?
Alors cette année c'est d'ici et d'ailleurs, et c'est en fait la thématique c'est le voyage. Voilà. D'accord. Donc là en face de moi, les auditeurs ne le voient pas, mais j'ai de très belles œuvres qui sont en pleine forêt tropicale avec des oiseaux, des singes. Vous avez un peu plus loin des paysages qui font penser à la Bretagne, par exemple, j'en ai un. Ça fait très Italie aussi. Vous avez de très belles choses. J'ai du Pérou derrière moi, par exemple. Enfin, vraiment, j'essaie de ne pas en dévoiler le plus. Venez la voir, elle est très belle.
Et les artistes sont des artistes locaux ?
Oui, tout à fait, pour la plupart. Alors quand je dis locaux, ça va être basé en Normandie ou sur un périmètre de 45 minutes de route. Et on a l'avantage, c'est que pratiquement tous les après-midi, on a du monde sur site, certains des artistes, d'autres personnes qui sont tout à fait, qui sont passionnées aussi par ça et qui pourront vous en parler. Et puis on a aussi tous les dimanches après-midi, l'une des artistes qui vient dessiner et peindre sur place.
Ah, elle peint en live ses propres œuvres.
Oui, oui, elle vient faire ses petites expositions directement devant le public, tout à fait.
Et donc, vous essayez de varier votre programmation au château entre des programmes nationaux et plus régionaux, c'est ça ?
Oui, c'est important pour nous. Alors, c'est vrai que les programmes nationaux, c'est bien pour s'inscrire en fait, au niveau du public, notamment... Outre Normandie, mais c'est important pour nous aussi de faire des choses un peu plus locales parce que, et ça on ne cessera pas de le répéter, le château s'adresse surtout aux personnes qui sont aux alentours et aux personnes du territoire. Sans ces personnes-là, on ne peut pas faire vivre le château. Ça reste nos premiers visiteurs, c'est important de le dire.
Écoles,
oui, tout à fait. Donc là, vraiment, et ça, je sais que je parle au nom de toute l'équipe et de l'agglomération, merci de venir et de soutenir le château. Mais voilà, c'est important pour nous aussi de proposer des choses aux personnes des alentours et pas que aux personnes... d'un peu plus loin, même s'il y en a aussi pour eux. Donc ça passe par des dispositifs plus petits et des choses qui sont plus locales.
Et pour revenir du coup sur l'agenda du château, pouvez-vous nous parler en quelques mots des temps forts que l'on pourra retrouver sur la période estivale et même après ? Parce qu'à la rentrée, il y a par exemple les journées du patrimoine, le 21 et 22 septembre, et vous organisez aussi un trail, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc là, cette année, c'est la 3e édition du trail, ce sera le 8 septembre. Alors, donc tous les ans, vous avez deux parcours qui sont proposés. Cette année, on aura 17 km et 31 km, ce qui n'est pas mal, effectivement.
Dans les jardins ?
Et donc là, voilà, vous avez un passage qui se fait forcément dans le côté patrimonial. Nous, ce sera dans les jardins cette année. Après, pour les grands rendez-vous, cet été, on va avoir des animations qui sont donc plus pour un public familial. Donc, c'est des petits formats. On va avoir des choses à la fois en journée pour les enfants et en semi-nocturne pour les familles. Donc,
c'est des ateliers.
Voilà. Donc, sans trop en dévoiler, là, on va avoir des thématiques plutôt archéologiques pour les ateliers pour les enfants. Donc, ce sera le vendredi. Alors, pour avoir plus d'informations, tout est sur le site internet, bien entendu, avec les horaires et les dates. Et en semi-nocturne, ce sera plus cette année autour de la chauve-souris, qui clairement est l'un des habitants dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet ou à nous passer un petit coup de téléphone. On a du monde pour vous répondre.
Il y aura aussi les journées du patrimoine.
Oh,
un gros rendez-vous.
Gros rendez-vous. Donc ça fait partie des gros dispositifs clairement qui nous tiennent à cœur. On ne peut pas le louper. Donc cette année, on est sur le week-end du 20, 21, 22. Alors moi, j'inclus le 20 vendredi, puisqu'il faut savoir qu'on inclut toujours une journée avant le dispositif pour les scolaires. En fait, ça, c'est toujours très important. On fait cette journée-là. Et donc, dans ce cadre-là, on va avoir une restitution d'exposition qui est guidée par une de mes collègues et des acteurs du territoire, comme notamment Condorcet, qui est une association qui est située sur le territoire. Donc, voilà.
C'est très important. Vous faites découvrir des espaces un peu cachés, parce que j'ai l'impression que oui, les journées du patrimoine, c'est un peu ça aussi.
C'est vrai qu'en général, on a tendance à réouvrir des lieux. Cette année, malheureusement, je ne saurais pas vous dire. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas forcément le cas, mais c'est vrai qu'avec les restaurations, on sera potentiellement un peu plus limité. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'on aura des secrets à vous révéler. On compense, hein, bien entendu.
On reste sur le teasing.
Toujours, il faut.
Et comment peuvent faire les auditeurs qui souhaitent s'inscrire à une visite, à un événement, ou avoir plus d'informations sur vos actualités ? Où est-ce qu'ils peuvent se rendre ? À quel quel téléphone ils peuvent appeler.
Alors là, pour le coup, vous avez donc on a un site internet qui est opérationnel depuis 2 ans maintenant, sur lequel vous retrouvez l'adresse mail du château et le numéro du château. Et comme je n'ai pas bien fait mes devoirs, j'ai un trou de mémoire sur le numéro de téléphone. Donc je vous inviterai fortement à aller voir sur le site internet, comme ça je ne vous donne pas de faux numéros de téléphone. Et surtout, vous n'appelez pas chez quelqu'un qui n'a pas à prendre les réservations.
Et le site internet, c'est châteaudegaillon.fr.
Oui, c'est châteaudegaillon, tout à fait. Et vous retrouvez tout, hein, les événements, les informations. Et puis s'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, un petit coup de téléphone, on vous répond et on vous donne tout ça.
Ben merci Léa.
Ben de rien.
Merci pour nous avoir présenté ce château. Et vous pourrez retrouver cette émission et les précédentes sur notre site internet bpmlaradio.com. À très vite sur BPM.
Au revoir.